Snake, colonel, est-ce que tu me reçois?
Campus Tour, turn the game.
Press start.
C'est parti pour Press Start.
Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Tour. Il est exactement 20h car nous sommes l'émission la plus à l'heure de cette antenne.
Ouais.
Tous les 15 jours, il y a un nouveau compliment. C'est, voilà, non, c'est... Il y a 15 jours, on était la meilleure émission. Aujourd'hui, l'émission la plus à l'heure.
Ouais,
on sera la plus inclusive dans deux semaines.
On va essayer.
On va essayer.
Ça, c'est... Pour l'instant, il y a 4 hommes blancs autour de la table. Alors, ça ne s'entend pas toujours. Tout ne s'entend pas à la radio. Mais là. Ouais.
On... Mais Charles, il est un peu handicapé, ça passe ?
Oh, attention à ce que tu dis. Là, en termes d'inclusion, on est déjà à la limite. Là, je crois,
là on est limite à la coupure d'antenne. On va se retrouver sur Rire et Chanson. Ça va nous faire tout drôle.
On va avoir un mail de l'équipe d'antenne. D'ailleurs, je vois que Charles est déjà en train de l'écrire. Alors. Bon, 20h01, vous écoutez Radio Campus Tour, vous écoutez Press Start, votre émission autour des jeux vidéo sur Radio Campus Tour, une semaine sur
bien
deux,
autour, hein.
Le lundi soir, effectivement.
Vraiment autour.
Et donc, ce soir, on va vous parler, comme d'habitude, de tout un tas de sujets. Je vous propose, messieurs, de pas trop tarder, parce que, comme d'habitude, le programme est dense.
Oui.
Donc, est-ce qu'on commencerait pas tout de suite par nos actualités ?
Bah, écoute.
C'est parti. C'est vrai que je me suis dit que je lançais la première chronique à 20h01 et que c'était quand même rapide. Mais c'est parce que je vous ai pas dit bonjour individuellement, c'est pour
ouais,
ça.
En fait, c'est ça que j'ai zappé. Nommé tout le monde. Mais à non. Part dire qu'on était la meilleure émission, machin. Ouais. Et après dire qu'on allait prendre
une sanction.
Mais pas
les plus polis, quoi. Voilà, chacun. Et ben non, on va se dire bonjour, mais avec notre actualité.
Ben voilà.
Donc bonjour Philippe, notre cher réalisateur. Comment vas-tu Philippe ?
Ben écoute, ça va bien.
Et quelle est ton actualité cette semaine ?
Eh ben mon actualité, ça concerne un petit artisan du jeu vidéo qu'on connaît très peu sur cette antenne, puisque je vais parler de Nintendo.
Ah, Nintendo.
Alors, grande nouvelle, hein, Nintendo a fait une grande annonce avec trailer à l'appui et tout. Attention, non, c'est pas pour la Switch 2, hein, ça attendra encore un petit peu, puisqu'ils vont lancer une application un petit peu spécial, leur plateforme de streaming musical. Alors oui, ça semble complètement ridicule, mais écoutez un petit peu. Nintendo, en fait, ils aiment bien jouer avec eux et dans leur propre cours, et surtout, ils n'aiment pas partager. Ça, c'est un petit peu le leitmotiv. Ça fait 40 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors là, ils ont sorti une application qui s'appelle le Nintendo Music. Alors dedans, c'est des trucs incroyables, hein. Vous pouvez écouter les bandes son des jeux comme Super Mario Bros, Super Mario Odyssey, Pokémon Écarlate Violet, Animal Crossing, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Donkey Kong Country, etc. etc. Metroid, le premier du nom, donc vous allez avoir un choix assez pléthorique de musique. Mais là où ils sont encore plus forts, c'est qu'au lieu de dire, je ne sais pas, il y a des plateformes pour ça, Deezer, Apple Music, Spotify, pour les plus tarés, YouTube Music, ou encore plus tarés, Amazon Music, en fait, non, ils ont dit, on va garder pour nous, parce qu'on aime bien nos trucs et on ne veut pas partager. Alors, pour l'instant, ce n'est réservé qu'aux abonnés du Nintendo Switch Online. Alors, avec ou sans le pass extension, ça, ils s'en foutent. Mais il faut quand même avoir l'abonnement. Alors, vous pouvez même choisir la durée de certaines pistes, ce qui est encore meilleur. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une musique et la voir pendant une heure en boucle. Parce que, ouais, Nintendo, ils sont capables de faire ça. Bah voilà.
Bah moi, le chant est tempête, je te l'écoute pendant 2 heures, il n'y a pas de problème. Hein.
Bah, tu pourras, si tu
veux. Bah oui.
Tu pourras télécharger la magnifique application. Il y a même une option spoiler pour ceux qui ne veulent pas tomber sur les musiques d'un jeu avant d'y avoir joué. C'est vrai que qui n'a pas joué à Ocarina of Time ? Je pense que le spoil, il est fait depuis longtemps.
Et mais le fameux spoil par la musique, hein, c'est bien connu.
C'est bien connu. Hein. Tout le monde connaît.
Tu vois, moi, je trouve que c'est discutable.
Ah ouais ?
Ah oui. Okay.
Alors, évidemment, vous pouvez avoir tout un tas et des playlists en fonction. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, Mario, vous allez avoir plein de musiques qui correspondent à Mario, etc. etc. Mais là où ils sont encore plus forts, c'est que pourtant, on sait que Nintendo, ils sont très fiers de leur héritage, ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Ils mettent aucun compositeur dans leur application. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le nom de qui que ce soit, c'est juste marqué musique de tel jeu.
Koji Kondo, connais pas.
Alors là, justement, je voulais le dire, on peut citer le grand Koji Kondo, il est là depuis 84. Le mec, en fait, fait partie des murs. Il doit vivre dans Nintendo, je ne sais pas. Il s'est perdu. Et on lui doit quand même Super Mario Bros, Super Mario 64, Ocarina of Time et plein d'autres musiques. Lui, il n'a même pas le droit à juste dire en fait, c'est lui qui a composé. Non, c'est juste marqué Nintendo. Ou David Wise pour d'autres, etc. Mais bon, Nintendo, ils ont dit peut-être qu'on verra ça une prochaine fois quand on aura 10 minutes. Alors, j'ai calculé. Parce que bon, imaginons quelqu'un qui adore les musiques de Nintendo, mais qui n'a pas une Switch et qui n'a pas l'abonnement. Alors, ça vous fait quand même une application gratuite, mais qui va vous coûter la petite somme. Alors, à l'heure actuelle, une Switch de base, c'est 260€. 270, allez, je vous le fais à 270. Formule d'abonnement, 20€ pour un an. Si vous prenez le pack basique, machin. Si vous prenez le pack additionnel, c'est 40€. Ça vous fait quand même une application à 300 balles. Et le pire dans tout ça, c'est que si ça a du succès, qu'est-ce qui va empêcher Sony et qu'est-ce qui va empêcher Microsoft de dire « Bah ouais, mais nous aussi, on va faire pareil, les gars. »
Ah bah je peux te le dire, ce qui va les empêcher de le faire, ils n'ont pas le catalogue pour ça. Simplement que ça. Tu veux faire quoi chez Microsoft? Ah, on a la musique d'Halo, vous savez. Ah ouais, c'est tout, en fait, on n'a rien d'autre. Et Sony, ils ont déjà essayé de faire leur Super Smash Bros.
Ils ont Forza.
Ah non, donc ils ont que Halo. Parce que c'est des radios dans Forza, donc sur Apple. Non, ils n'ont rien. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est pas si mal. Hein. Dans l'absolu, tu peux avoir l'application sur téléphone aussi.
Oui, sur téléphone.
Je sais pas si elle est sortie ou elle va sortir.
Elle est sortie. Tu l'as sur Android et sur iOS.
Mais sache que, en fait, les musiques de chez Nintendo, elles sont compliquées à avoir. C'est-à-dire, les mecs qui les mettent sur YouTube, en vrai, ils risquent le strike à chaque instant. Hein.
Bah oui.
Donc, du coup, je trouve ça pas si mal. D'autant qu'ils ont fait plein de playlists quand j'avais regardé des playlists, notamment pour faire du sport, pour cuisiner, pour étudier. Et ils sortent toutes les musiques qui correspondent à ce genre d'atmosphère. Et en fait, Nintendo, ils peuvent.
Ouais. Ils ont plus de 40 ans d'histoire. Hein, donc,
Sony, ils ont 30 ans d'histoire. 30 ans, ils n'ont pas la playlist.
Sauf qu'eux, ils ont beaucoup d'éditeurs autour. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'éditeurs autour.
Pour le coup, je trouve que ce n'est pas des salauds faire un truc qui soit gratuit. Alors évidemment, du coup, il faut être client,
abonné,
fan,
faut avoir la console et tout. Quoi.
Mais du coup, pour ceux qui sont vraiment la cible, c'est-à-dire les fans et ceux qui aiment le jeu, ils n'ont pas besoin de débourser 5 balles de plus tous les mois, machin. Ça rend le truc plus accessible. C'est un truc en plus un peu sympa.
Ça peut être intéressant de ce côté-là, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas forcément la console, mais qui... En contournant quelques règles sur YouTube, tu tombes sur des musiques de Nintendo.
C'est un problème.
C'est-à-dire que, on ne va pas donner de nom de chaîne parce qu'on ne veut pas donner d'indice à Nintendo, mais il y en a.
Ne posez pas de problème, pitié.
Et honnêtement, ça fait quand même un truc à 300 balles, ça fait un petit peu cher. Quoi. Voilà. À moins que tu prennes l'abonnement au online, mais ça ne te sert à rien parce que tu payes un abonnement pour juste écouter des musiques. Voilà, autant dire.
Après, si t'as la flemme, t'achètes Super Smash Bros Ultimate. Et en fait, dedans, t'as une partie playlist. Et alors là, t'as de quoi faire. Ah là, t'as de quoi faire niveau musique. Hein.
Donc voilà, petite news. Mais attention, ça peut-être ouvrir à d'autres délires de la part d'autres éditeurs.
Eh bien écoute, merci beaucoup Philippe pour cette news. J'en ai une aussi autour de Nintendo, mais je la garde pour la fin. Tony, bonsoir Tony. Exagéré de se dire bonsoir.
Bonsoir Julien, comment vas-tu?
Super et toi?
Attends
quand même, on n'est pas des chiens, on se dit bonjour.
On est professionnels ici, messieurs.
Charles, t'attends 5 minutes.
Moi je vais vous parler, vous savez la PS5 Pro, cette superbe idée qui se vend comme des petits pains.
Oui, oui.
Avec sa collector à 1200 balles, bravo Charles. C'est dommage que t'étais pas là quand j'ai dit que t'avais gagné. T'étais pas là, c'est tellement rare que tu gagnes, dommage.
Il avait même un cadeau pour toi, mais il n'a plus.
Comète de Hailey de la victoire.
PS Pro, j'avais gagné, il a gardé, pas de chance.
Et du coup, il y a la liste des 50 jeux qui seront optimisés, un peu plus de 50 jeux en réalité, optimisés pour la future console de Sony, avec ses 16,7 teraflops. C'est une unité de mesure qui ne veut rien dire, parce qu'en fait, c'est juste pour se la péter, mais dans les faits, c'est vraiment le concours de celui qui a le plus gros attribut. Mais en fait, après, une fois que tu adaptes tes calculs, en fait, ça fait plus 16,7. Mais
allez, fais-nous rêver.
Coup, j'ai regardé un peu dans cette liste. Alors, en fait, en regardant cette liste, je me suis rendu compte que quand même, c'est pas c'est... une génération pas si folle, en fait, parce que tu regardes un peu ce qu'il y a de voilà. En fait, dans les jeux qui sont exclus PS5, enfin, en tout cas, exclus de cette génération, on a quoi ? On a Alan Wake 2, on a Baldur's Gate 3, on a Black Ops 6, et encore Black Ops 6, peut-être sorti... Non, il est pas sorti,
là,
sur,
il est
PS4.
Pas sorti sur, sur...
Je sais pas s'il est sorti sur PS4, je crois pas, peut-être, ils ont peut-être arrêté, quand même. Il y a... je regarde... Dead Island 2, allez, Demon's Souls. Bon, faut que je descende, maintenant. Je descends. Je descends. Ah si, il y a Dragon Age The Veilguard, quand même, qui est sorti sur... FF7 Rebirth. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Ben, Spider-Man 2, pardon. Je descends, je descends, je descends, je descends. Ah, Ratchet & Clank Rift Apart. Je descends, je descends, je descends. Outlaws, Star Wars Outlaws qui est là. Je descends, je descends, je descends. Ouais, voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose. En vrai, soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a Until Dawn, mais Until Dawn, c'est la version, le remaster.
Le remake, là, ouais.
C'est pas... Oui, c'est plus un remake, d'ailleurs, techniquement. Voilà.
Mais puisque donc, 70 balles...
Ce que j'adore, c'est que dans la
liste. Ouais, fait mal, celui-là.
Ce que j'adore, c'est que dans la liste, tu as quand même The Crew Motorfest.
Oui.
Et The Crew Motorfest, il me semble qu'il est même plus. Même plus soutenu par Ubisoft. Ils ont dit ouais, on va couper les serveurs, mais vous avez un super beau jeu. Hein. Par contre, il va être nickel. Hein.
Mais en fait, ouais, c'est un peu déprimant, en fait. Enfin. Après, j'ai vu des trucs qui étaient impressionnants. Hein. Moi, je me rappelle avoir vu, par exemple, une vidéo pour le Harry Potter, là, le Hogwarts Legacy. Il y avait quand même de jolis effets rajoutés, c'était pas des petits détails non plus, ça poussait un peu. Mais en fait, tu lis la liste et en fait, tu te rends compte que la génération, depuis la PS5 et la Series X, elle est pas folle, en fait.
Enfin, pas grand chose. Hein.
Ouais, voilà. Ça, donc,
ça fait peur, hein. 1200 balles pour.
Non, elle a 800 balles. Alors, non, pardon. Elle a 800 balles.
Si t'arrives si à l'avoir.
Alors. Ouais, non, si l'avoir, c'est pas trop compliqué. Par contre, t'as pas embêté parce que si t'as tes jeux déjà sur PS5 en physique, comme une personne normalement censée, et ben en fait, il te faut le lecteur. Allez, tu rajoutes combien 130 balles, 120 balles, je sais plus. Tu vois, si tu veux la mettre debout parce que tu te dis, bah moi je veux qu'elle soit debout, il faut acheter le socle. Allez, 20 balles. Allez, c'est cadeau. Donc, ça commence à faire ton affaire quand même. Non, mais bon, voilà. Donc, bon, ça renvoie à un message un peu triste sur la génération de consoles actuelles, quand même.
C'est clair.
Bon.
Merci, Tony. Bonsoir, Charles.
Bonsoir, Julien. Bonsoir, l'équipe. Et bonsoir, Pierre, qui vient d'arriver. Ah, mais tu veux lui dire bonjour après, pardon.
En fin d'émission.
C'est chacun.
Dans 50 minutes.
Quand même.
Dans 50 minutes.
Non, mais c'est vrai. Bonsoir, Pierre.
Je suis pas encore là, j'arrive.
Attends, te mets ton micro.
Voilà, tu es avec nous, bonsoir.
Salut, je suis pas encore là, j'arrive tout à l'heure.
C'est ça, Pierre qui découvre l'émission, qui voilà, sera probablement exactement. Notre nouveau chroniqueur.
Et qui va s'enfuir tout de suite dès la fin de l'émission.
Peut-être, en tout cas, avant de s'enfuir, c'est... il sera là pour le quiz en fin d'émission.
Voilà. Et pour l'inclusivité, comme on disait tout à l'heure, bon, bah, c'est encore un homme blanc, c'est mort.
Avec des lunettes et une barbe.
Des lunettes et une barbe,
il
comme
a les
moi.
Cheveux longs, quand même.
Tout le monde autour de la table.
Putain, quelle originalité ici, dingue.
Barbe, lunettes.
Ouais, je me suis fait cette analyse en arrivant, je me suis dit, mais attends, on a tous des lunettes.
Bah, sinon, je t'aurais pas proposé de venir.
Ah oui, évidemment, j'aurais pas été bienvenu.
Attends, c'est Prestart ou c'est le Gugux Clan là, qui fait une réunion?
C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse. Ouais, bon. Allez, ouais, enchaînons. Bon. Parce que... Donc, on parle de jeux vidéo, comme vous l'avez compris. Bon, on divague ouais. Un peu parfois aussi, mais c'est bien, t'as compris le thème de l'émission. On est plutôt pas mal. Quelle est ta petite news, Charles ?
Eh bien, vous savez, actuellement, il y a plein d'éditeurs de jeux comme Ubisoft, ça, pour qui tout se passe très bien. Hein, voilà.
Ah oui.
Vu qu'Ubisoft peut même vendre des NFT pour vendre ses jeux. Enfin, bref.
Souvent, c'est que tout va bien quand tu te mets à vendre des NFT.
Voilà, donc il y a toute une. Plein de familles, hein, si on pouvait jouer au jeu des 7 familles des éditeurs pour qui tout se passe mal, il y en aurait pas mal, hein, il y en aurait au moins 6. Et puis il y aurait cette petite famille à la fin pour qui tout se passe bien, qui est Valve, avec Gabe Newell qui apparemment ne bouge plus d'un de ses 5 yachts. et qui, bah, eux, voilà, en fait, ils ont plein de projets, ils ne veulent pas vendre des NFT. Hein, ils ont compris, eux, ils savaient avant même qu'Ubisoft le fasse que c'était nul comme idée. Mais eux, voilà, bah, vous savez, il y a 2 ans, ils ont sorti le Steam Deck qui cartonne et qui est une petite révolution aussi pour amener le jeu sur Linux. Voilà, donc ce qui est quand même assez. Ça a mis une grosse claque à tout le monde, hein, parce que tous ceux qui essayent de faire des consoles genre Steam Deck pour les concurrencer, ça tourne sous Windows. Hein. Donc ce qui n'est pas un grand intérêt. Et en fait, voilà, donc actuellement, Valve a lancé un partenariat investi dans Arch Linux, qui est une société qui a une distribution Linux. C'est laquelle, sur laquelle ils se sont basés pour créer Steam OS. Et donc, ils ont décidé d'investir et de donner un grand fort soutien financier à cette société pour voilà, développer leur distribution. Pardon, j'y arrive. Et c'est pas tout. En fait, apparemment, ils travaillent aussi sur une version de Proton. Alors, Proton, c'est ce programme que Valve a créé pour faire tourner. Quand il y a un jeu qui, a priori, n'est pas censé fonctionner, bah, ça fonctionne quand même.
Donc, oui, je connais, ça s'appelle La Magie Noire.
La Magie Noire, voilà. Donc, ils sont quand même très, très forts. Voilà. Et quand il y a un jeu qui ne marche pas très bien sur le Steam Deck, bah, on télécharge une version de Proton, on change, et puis, ah, bah, tiens, ça marche. C'est génial, vous êtes très forts, les mecs. Et bah, ils travaillent actuellement sur une version de Proton pour les ARM.
OK.
Donc, voilà, les processeurs ARM. Donc, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ça ouvre des portes. On se dit, voilà. Là, actuellement, ils ont pas un processeur maison. Hein. Je ne sais pas trop quel processeur il y a dans le Steam Deck.
Mais... Ce n'est pas du Nvidia, ce n'est pas du Tegra.
Oui, certainement. Ouais. Et voilà, peut-être qu'à l'avenir, on pourra avoir des versions de SteamOS qui fonctionneraient sous ARM. Donc, ils bousculent quand même beaucoup les choses hein, depuis 2 ans. Et faire à suivre, quoi, hein, savoir. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'effectivement, ils travaillaient bien sûr un Steam Deck 2, mais qui sont pas pressés en fait.
Ils ont annoncé qu'ils travaillaient, c'est quand même.
Ouais, voilà, ouais, mais eux, ils veulent que leur prochaine machine soit vraiment un bond en avant, que ça soit qu'il y ait des performances très importantes.
Profitons-en. Profitons-en parce que je vous rappelle que Steam Deck 2, il y aura pas de 3. Hein. C'est une règle chez Valve, il n'y en aura que 3, deux, le troisième, il n'y en aura pas.
C'est clair.
Et c'est du AMD, en fait, j'ai vérifié.
D'accord.
Ouais. Okay.
Donc voilà, des bonnes nouvelles pour la seule famille pour qui tout marche bien.
Écoute, merci beaucoup, voilà. Charles. Et moi, du coup, j'enchaîne. Donc moi, c'est Julien, bonsoir. Moi, ça va super.
Bonsoir, salut, Julien.
Merci beaucoup.
Ça fait 4 jours que j'ai arrêté de boire. Bravo, Julien.
Et donc, moi, je voulais vous parler aussi, alors ça rejoint un peu Philippe, d'une application mobile, donc iOS et Android, sortie par, par une petite industrie, une petite entreprise familiale.
Un petit artisan du jeu vidéo.
Voilà, qu'on pourrait appeler Nintendo, avec une petite franchise qu'on appelle Pokémon. Et ils ont sorti une application qui s'appelle Pokémon TCGP. Est-ce que vous en avez entendu parler autour de la table, messieurs?
C'est avec le jeu de cartes, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Trading Card Game Pocket.
Ouais, ou Pokémon, je pense. Ah. En fait, c'est tout simplement un jeu, donc mobile, qui consiste à ouvrir des cartes, ouvrir des boosters de cartes. Donc, vous avez virtuellement des boosters de cartes qui contiennent 5 cartes. Et donc, vous pouvez tout simplement collectionner la dernière version des cartes Pokémon avec un booster gratuit toutes les 12 heures et tout un tas de missions qui vous permet d'en débloquer.
Donc, ça veut dire que ça ne servait à rien d'en acheter dans la vraie vie, du coup.
Si ce n'est de les avoir en vrai. Mais
non, mais c'est beau, c'est que Nintendo et Pokémon Company viennent de réinventer les cartes Panini. Et les albums Panini, c'est magnifique.
Alors en fait, c'est des NFT.
Alors, c'est pas exactement des NFT, mais en gros, c'est voilà, faut voir ça un peu comme une simulation d'ouverture de paquets de cartes sur son téléphone. Et... Ça marche plutôt pas mal.
Ah bah, tu m'étonnes.
Ça marche de mieux en mieux parce que bah, il y a ce côté un peu sympa de créer sa collection et d'essayer de choper des cartes rares. Je vous montrerai ma super collection d'ailleurs.
Ils ont quand même réussi à faire une application pour que les gens fassent du geocaching, mais avec des Pokémon. Des cartes, ils sont capables aussi. Je crois qu'il y aurait un truc, c'est trouver le slip sale de machin, ils seraient capables, les gens seraient comme des dingues.
C'est les dieux.
Et donc, je crois que c'est la toute dernière série en fait, qui est dans le jeu. Et j'ai cru voir sur leur site qu'ils étaient en train de travailler à inclure du coup d'autres séries pour en fait, élargir un peu la gamme. Et ce qui est chouette aussi avec ce jeu, alors évidemment, il est possible de payer pour avoir davantage de cartes, mais on peut quand même faire pas mal de trucs gratuitement au moins au début du jeu. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils incluent en fait, le système de combat. Qui mine de rien est pas tant développé que ça autour des cartes Pokémon qui servent surtout à la collection. Là il y a l'aspect collection mais il y a aussi l'aspect combat où du coup on peut créer son deck, combattre contre un ordinateur mais aussi combattre contre d'autres joueurs bah, et donc se servir pour de vrai de ces cartes Pokémon.
Ils ont réinventé le jeu Magic qui existe déjà depuis
ils ont créé une sorte de version virtuelle de ce qui existe en physique. Et voilà, donc c'est un jeu qui marche plutôt pas mal. D'autant plus que quand on l'ouvre, je vois qu'il y en a qui sont en train de télécharger autour de la table. Ouais. D'autant plus que quand on l'ouvre, il y a certaines cartes, du coup, il y a des animations qui vont avec et tout. Donc c'est plutôt pas trop mal fait. C'est plutôt. Voilà, on rentre plutôt facilement dans le jeu. D'autant plus que les cartes X, où on voit le Pokémon sur la carte qui en sort, et ben en fait, avec un système de 3D, il est animé en 3D, etc.
Est-ce qu'il y a des cartes comme Charlie l'aime beaucoup
Tu veux dire.
Des cartes lenticulaires.
Lenticulaires, voilà.
Il y a un effet lenticulaire sur les cartes.
Des cartes qui brillent, là ?
Ouais.
Ouais, bah un peu, ouais. Ouais,
ça brille, alors, s'il te c'est, pour plaît, c'est en relief.
C'est la 3D des pauvres, ok.
Voilà, ouais. Bah là, la vraie 3D. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve plutôt chouette et donc voilà, que je voulais vous présenter, qui est sorti là il y a vraiment pas longtemps, il y a même pas moins d'une semaine, il y a quelques jours, je crois, le 30 octobre, il me semble. Voilà, un jeu qui commence à bien fonctionner, qui fait un peu de bruit et qui est en train de se développer un petit peu. Donc voilà, je tenais à vous présenter ce nouveau Pokémon.
Voilà. Et si vous n'aimez pas Pokémon, il existe des cartes magiques. Il existe également Hearthstone, qui est sur World of Warcraft. En fait, il y a plein de jeux
avec
des cartes.
En fait, il existe plein de cartes. Il y a même des jeux de cartes avec pour faire de la bataille avec il y a tout un, avec pour des magiciens, enfin il y a plein de jeux de cartes.
Ou sinon il y a un truc tout bête, hein, vous prenez simplement un jeu de cartes.
Ouais. le classique, l'original. Faire, voilà. Voilà donc pour ces actualités, vous en avez l'habitude, 20h21 à l'écoute de Press Start, on est évidemment en retard.
Oui.
C'est donc le moment de marquer une pause musicale. Quels sont ces coups de Philippe pour commencer ?
Eh ben on va écouter une petite musique japonaise d'un jeu qui est incroyable, même encore aujourd'hui, il se tient bien. Un certain Onimusha 3, qui est très connu en France parce qu'il y a Jean Reno dedans.
Exactement.
Et qui a fait que Jean Reno est devenu une méga star au Japon. Ça et le film Wasabi. Allez comprendre pourquoi. Et voici le thème du personnage qui s'appelait Jacques Pride. C'est parti. We'll be right back.
de retour sur Radio Campus Tour dans votre émission Presse Start. Tony a attrapé Mewtwo.
Vous êtes insupportables, vous êtes tous comme des gamins.
C'est l'émission Presse Carte Pokémon, s'il vous plaît.
Voilà, Tony a attrapé Mewtwo et moi, je me la pétais avec mon Dracaufeu. N'hésitez pas à nous ajouter en ami. Mon code, c'est 1224. Le gars qui est trop investi dans le jeu. Vous êtes donc à l'écoute de Radio Campus Tour. Il est 20h25 dans votre émission de jeux vidéo. Et je vous propose de
parle de jeux vidéo. Ah merde.
Ah oui, on vous a.
Je croyais qu'on parlait de cartes virtuelles.
Oui, bon, ça en fait partie. C'est très large le spectre des jeux vidéo.
Très très large.
Et donc, on va passer à la chronique de Charles.
Ah merde, j'ai pas eu le temps de créer mon compte sur Pokémon. Bon, c'est pas grave.
T'as le jingle.
L'occasion pour moi de vous rappeler, fermez vos gueules pendant le putain de jingle.
Coupe pas les micros, c'est pour le générique, faut pas parler.
Et donc Charles, tu nous parles, je crois, si je dis pas de bêtises, d'un petit artisan japonais qui fait un jeu de cartes sur ton téléphone, c'est ça?
C'est ça, ouais, voilà, ouais. Qui s'appelle Poké. Bref.
Je parle de toute autre chose, bien sûr.
Vous savez ce qui sort dans 15 jours?
Call of Pripyat? Non, Stalker.
Eh ben oui, voilà.
C'est dans 15 jours.
Dans 15 jours, le 20 novembre, Stalker 2 sort.
Un congé.
J'allais faire la blague. J'allais littéralement faire la blague.
Et heureusement qu'il n'y a pas trop de jeux qui sortent. Toi, et plus de vacances. Mais... donc ouais, le 20 novembre prochain, il y a Stalker 2 qui sort. Et c'est un jeu, moi, que personnellement, j'attends depuis très longtemps. Ayant joué au 1 en... Alors, pas en 2007 quand il est sorti, mais quelques années après.
Il y a trois jours, tu as joué au
mois. Il y a trois jours aussi, ouais, j'y ai rejoué. Et donc voilà, Stalker 2 qui a une longue histoire de développement, hein, parce qu'il avait été annoncé en 2010, je crois. Le développement, il y a eu des problèmes financiers, ils se sont arrêtés. Il a repris en 2018. Il y a eu le Covid, ça a foutu un peu la merde. Il y a eu une petite guerre là, en Ukraine qui... voilà. Ouais. Qui fait que le studio a dû déménager, enfin voilà, tout un bazar. Et donc, finalement, ils ont tenu bon. Et le 20 novembre prochain sort Stalker 2, qui promet d'être assez grandiose. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de l'acheter tout de suite à sa sortie, d'attendre un petit peu, parce que bon, voilà, 70 euros, je crois, à peu près, pour la version...
Ça dépend où tu l'achètes.
Pas version de base, voilà. je vous conseille en fait de jouer au premier. En fait, il y a Stalker 1 qui était sorti donc en 2007. Et vous savez, à l'époque, dans les années 2000, on parlait pas encore de DLC. On parlait d'extension.
D'extension.
On parlait d'extension qui rajoutait du contenu au jeu de base.
Un standalone, on disait.
Et voilà. Et il y avait aussi les standalone, donc qui étaient des... C'était un peu comme les extensions, sauf qu'on n'avait pas besoin du jeu de base. Donc, c'était un jeu à lui seul qui exploitait l'univers du jeu original. Et donc, voilà, il y avait les extensions et les stand-alone. Et Stalker, donc premier du nom, qui s'appelait Shadow of Chernobyl, a eu droit à deux stand-alone, donc Clear Sky en 2008 et Call of Pripyat en 2010. Clear Sky est une préquelle à Shadow of Chernobyl, tandis que Call of Pripyat, c'est une histoire à part. Et en fait, c'est de ce stand-alone-là dont je vais vous parler. Parce que voilà, si vous avez envie de vous remettre dans le bain avant Stalker 2, bah, c'est l'épisode que je vous conseille, parce qu'il n'est pas très long et il est vachement sympa. Et puis, voilà, Stalker Shadow of Chernobyl est assez long, alors vous pouvez le faire, hein, je ne vous empêche pas d'y jouer. Mais voilà, si vous voulez faire un truc un peu rapide, voilà, pendant les 15 jours avant Stalker 2, Call of Pripyat, c'est une bonne pioche. Donc, Call of Pripyat, il se déroule dans une Ukraine post-soviétique autour de Tchernobyl, qui est devenue donc une zone de danger où la réalité elle-même est altérée par des phénomènes étranges et dangereux suite à l'explosion donc, de la centrale 26 ans plus tôt. Voilà, Call of Pripyat se passe en 2012. Entre-temps, il y a eu des événements donc, dans Shadow of Chernobyl qui ont rendu cette nouvelle zone encore plus dangereuse. Et donc, voilà, l'histoire de Call of Pripyat va se concentrer sur une mission du gouvernement ukrainien pour explorer cette nouvelle zone et enquêter sur la disparition de plusieurs hélicoptères. En fait, et voilà, ils ont voulu explorer la zone, ils ont envoyé 5 hélicoptères, puis plus de nouvelles, ils se sont crashés, on ne sait pas pourquoi. Donc, bah, qui c'est qu'ils envoient? Bah, vous. Le Major Alexander. Alors, Alexander, c'est son prénom, son nom de famille, je n'ai pas réussi à le prononcer, donc je ne l'ai pas écrit.
Ah, bravo. Ah, ça fait pro, hein, ça,
c'est très pro, oui. Ouais.
Dektiarev, c'est quand même pas trop difficile.
Comment?
Dektiarev.
Eh ben oui, non, mais toi, t'es fort.
Non, c'est parce que j'ai la réponse devant les yeux.
Non, oui, voilà. Il a des liens avec Gazprom. Mais enfin, ouais.
Et donc, voilà, vous êtes envoyé pour enquêter sur la disparition de ces 5 hélicoptères en vous faisant passer pour un stalker. Un stalker, voilà, c'est quelqu'un qui va dans la zone à la recherche d'artefacts. Parce que, voilà, après l'explosion de Tchernobyl, toute la zone est devenue instable. Des étranges phénomènes, et puis il y a plein d'objets aussi très étranges et qui rapportent du fric, ces objets, voilà, parce que c'est toujours question de fric.
Donc on pourrait appeler ça des mercenaires.
Ouais, c'est ça, voilà. Stalker, c'est un jeu qui est très célèbre pour son ambiance immersive et puis sa représentation assez glaçante d'un monde dévasté et hostile. La zone de Pripyat est pleine de mystères, avec des bâtiments abandonnés, des paysages dévastés et un silence pesant qui est souvent interrompu par des cris d'animaux mutants ou des anomalies mortelles qui font des bruits très étranges. Les anomalies, c'est quoi? Ce sont des perturbations de la réalité qui affectent la gravité, la température, la perception humaine et qui créent des pièges mortels pour les stalkers ou n'importe qui s'aventure, même les créatures elles-mêmes, dans la zone. Parce qu'effectivement, voilà, aussi, il y a des étranges créatures, parce que tous les animaux ont muté, et il y a des trucs vraiment chelous.
Mais pas muté en bien.
Hein. Et pas muté en bien, non.
Non, c'est toujours muté, mais de façon dégueulasse.
Voilà, ouais. Et puis, qui sont vraiment très dangereux. Il y a des créatures qui sont invisibles.
Un seul œil.
Ouais, voilà, qui ont des tentacules. Il y a un côté un peu Lovecraft.
Oui, un chouïa.
Dans les anomalies, on trouve les anomalies, par exemple, gravitationnelles, qui sont visibles par une légère distorsion de l'air, voilà, un peu comme un mirage. Et si vous approchez, soit elle vous attire vers elle vous aspire et vous explosez, soit vous êtes projeté dans les airs, et souvent vous en mourrez.
Oui, parce qu'on meurt souvent.
On meurt stalker. Souvent dans Stalker. Et voilà, et puis il y en a une autre aussi qui vous attrape, pareil, mais qui est en l'air, qui vous fait léviter en l'air, et puis vous explosez. Voilà. Pas trop le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a des anomalies thermales qui vont changer la température à certains endroits et puis créer des jets de feu, voilà, qui sortent de n'importe où, parfois même de l'air. Et tout d'un coup, il y a des explosions comme ça, soudaines, au milieu de nulle part. Voilà, vous avez des anomalies électromagnétiques, hein, plus voilà, qui créent des champs électriques, chimiques, voilà, qui créent des gaz ou des jets de liquide corrosif, enfin voilà, rien de très sympathique. Quoi. Mais heureusement, vous possédez un détecteur d'anomalies. Donc quand vous baladez, ça fait bip, bip, bip dès que vous approchez d'une anomalie. Donc voilà, vous les évitez en permanence. Évidemment, il est impossible de se défendre contre une anomalie. Vous pouvez lui tirer dessus et rien à foutre. Et on meurt effectivement tout le temps de ces anomalies. Stalker, voilà, donc c'est un univers comme ça très étrange. Et va y avoir aussi des gangs, en fait. Il y a des bandits, il y a les stalkers, mais aussi les bandits, en fait, qui sont pas très cool, hein, qui veulent toujours vous piquer les trucs que vous avez durement récupérés dans des souterrains.
Comprendre, voler.
Voler, voilà. Donc, dans Stalker, voilà, je disais, c'est un jeu de 2010, donc les graphismes peuvent paraître un peu vieillots pour les joueurs d'aujourd'hui qui jouent sur PS5 Pro à 1000 balles. Mais je trouve franchement que le jeu reste quand même encore beau.
Il a sa DA, quoi.
C'est
sa DA,
ouais, voilà, sauve, c'est ça. Il y a une ambiance quand même qui reste vraiment très impressionnante, avec une gestion de la météo aussi qui est assez géniale. La météo est dynamique, donc elle change régulièrement. Et franchement, le ciel, parfois quand il y a un orage qui éclate, c'est vraiment très impressionnant. Le ciel est super bien fait. Il y a des éclairs. Il se met à pleuvoir. Moi, alors c'est marrant parce que c'est, dans la vraie vie, la météo, je m'en fous. C'est-à-dire que les gens sont toujours en train de dire « Oh, il pleut aujourd'hui, oh, il fait gris, etc. » Et les gens dépriment avec la météo. Moi, la météo n'a absolument aucun effet sur moi. sauf dans les jeux vidéo. Je déteste quand il pleut dans les jeux vidéo. Dans Minecraft, quand il pleut, ça me fait chier. Et ben là, dans Stalker, je vous dis que quand il pleut et quand il y a de l'orage, ah ben, je suis pas content.
Ouais, le duo nuit, pluie, oh, qu'est-ce que tu te fais chier.
Ah ouais, ouais, ouais.
Tu vois rien.
Tu vois rien parce qu'effectivement, la nuit, c'est le noir.
Ouais, il fait nuit.
Vraiment. Total. Il fait nuit complet. On ne voit rien du tout, sauf si on allume sa lampe torche. Dans ce cas, tout le monde nous voit et on n'a pas envie que tout le monde nous voit.
Ouais, puis en plus, il y a un problème, c'est que les autorités locales, elles ne se sont pas dit que c'était une bonne idée de mettre des lampadaires.
Ouais.
C'est un peu chiant, ça.
Ouais. Donc effectivement, quand on doit traverser des champs, des plaines entières, et qu'il fait nuit totale, et qu'on entend les bruits des animaux qui crient, les oiseaux, etc., c'est hyper flippant. On essaie de trouver une cachette et de ne plus y bouger jusqu'à ce qu'il fasse jour. Mais c'est long avant d'arriver le jour, parce que j'ai calculé une heure dans le jeu, c'est 5 minutes. Donc,
t'as le temps de la sentir passer la nuit.
Tu la sens passer, ouais. Heureusement, dans l'Est, le jour se lève plus tôt que par chez nous. Donc voilà. Donc, c'est assez flippant. Moi, la première nuit où j'étais, on peut dormir dans des endroits. Il y a des cachettes où on peut dormir. Mais si tu passes ta nuit à un endroit où il n'y a pas de lit, eh ben, tant pis.
Tu vas attendre.
T'attends. Voilà. La survie, elle est cruciale dans le jeu. Vous devez gérer votre santé, les radiations, hein, parce qu'évidemment, qui dit Tchernobyl dit radiation. Vous devez manger, votre équipement est s'use, vos armes s'enrayent.
Ah là, ça, c'est abominable, ça.
Vous pouvez être blessé et donc saigner, et le sang fait baisser votre barre de santé. Donc vous avez des bandages. Les bandages empêchent le saignement, mais ne restaurent pas votre santé. Pour ça, il faut des kits de soins ou manger. Et vous pouvez porter 50 kg de matériel sur vous. Si vous dépassez 50 kg, bah vous. Déjà, plus vous portez, plus vous approchez des 50 kilos, moins vous marchez vite. Et dès que vous passez les 50 kilos, là, vous marchez vraiment pas vite. Votre barre d'endurance baisse très, très vite. Et même quand vous sautez, vous perdez toutes vos barres d'endurance. Vous faites un tout petit saut de 50 centimètres. Et donc, voilà, ouais, c'est rude hein, quand même. Les combats, ils sont quand même super intenses. Call of Pripyat, c'est pas du tout Call of Duty. Hein. Il ne suffit pas de se cacher 10 secondes dans un coin parce qu'on s'y tripe 3 balles et de respirer très fort et de récupérer sa barre de santé. Votre santé, elle se restaure automatiquement toute seule, mais tout doucement. Vraiment tout doucement. Donc en gros, si vous rencontrez quelqu'un qui tire en premier, bah, vous êtes mort hein, parce que les dégâts sont localisés. Donc s'il vise la tête, bah, voilà. Hein, et donc ouais, non, c'est assez intense. Hein. Ouais, et le scénario des missions est assez intéressant parce qu'il y a souvent plusieurs façons de faire les scénarios, les missions. Moi, il y a une mission où je me suis retrouvé, je devais aller chercher un artefact qui était dans une épave de bateau. En sortant du bateau, il y a un type qui m'attend qui me dit hey, ton artefact, il peut guérir, etc.
Ouais,
moi,
j'ai
un
pote. Pour ma soeur, ouais, c'est ma soeur ou mon pote.
Il est super malade, etc. Est-ce que tu peux me le donner et tout, j'en ai vraiment besoin. Moi, évidemment, je sais qu'il me fout de ma gueule, donc je lui dis non. Bon, d'accord.
Ouais, c'est pas cool, mec.
C'était pas cool. Donc, voilà, il se pose contre la paroi du bateau et puis il vous tourne le dos. Bon. Moi, je passe à côté de lui, tranquille. Et arrive un mec devant moi, un autre mec qui me tient en joue. Et du coup, bah, l'autre, il sort son flingue derrière et je suis pris en sandwich. Soit je leur file l'artefact, soit je meurs. J'en ai buté un, mais l'autre m'a tué. Je suis mort 10 fois avant de réussir ce passage. Parce qu'après, je dis, ok, bon, j'ai compris. Il y en a un là, je bute le premier. L'autre, après, il est à droite. Donc je m'approche, et ben non, il y en a un autre qui s'était planqué dans une petite cabane à côté. Et en fait, c'est souvent comme ça, en fait, on découvre le dénouement des missions comme ça, en mourant, souvent. Et donc c'est vachement intéressant. Il ne faut pas oublier un truc aussi, on est dans un jeu de 2010, donc si vous y mettez, hein, je parle aux plus jeunes joueurs qui connaissent les sauvegardes automatiques, il ne faut pas oublier d'appuyer sur F5 de temps en temps.
Ah ouais, vous allez le faire souvent même.
Ouais, parce que moi, la première fois, j'ai oublié. Et j'ai dû recommencer 30 minutes de jeu. Quoi.
Alors oui, mais il y a un corollaire à cette règle, c'est que en fait, si tu fais F5 trop souvent, tu vas trouver parfois une situation où tu as fait le F5 de trop.
Exactement.
Et tu vas revenir dans une sorte de boucle où tu meurs en boucle sans arrêt.
Tout sortir, à fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire des sauvegardes manuelles dans le menu de sauvegarde et avant un moment crucial. Et après, vous avancez dans la mission et vous tapez F5. Ça ne va pas écraser la sauvegarde d'avant. Le F5, c'est le quick save, qui est une sauvegarde à part. Mais effectivement, tu as raison de le dire, parce que c'est le piège. Là, par exemple, en ce moment, il y a une mission, je n'arrive pas à la faire parce que je suis dehors. Il y a une tempête qui arrive, qui est radioactive. Si vous restez dehors, vous mourrez. Et le seul bâtiment qui est à côté de moi, il est rempli de bandits. qui me bute à chaque fois que je rentre. Donc là, voilà, j'en suis là avec mon F5. La bande-son du jeu, elle est géniale. Voilà, les bruits d'ambiance sont terrifiants. La musique est très discrète. Le bruit des armes, en revanche, il est un peu pourri.
Bon, voilà, c'est 2010. Hein.
Oui, c'est parce que ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'il faut le modder, ce jeu.
Il faut le modder, exactement. Voilà, il y a plein de modes qui existent pour ce jeu, pour rendre à la fois plus beau et
plus dur.
Changer l'interface, plus vivant, etc. C'est un jeu où vous êtes libre d'explorer, de suivre le scénario comme vous voulez. C'est un jeu à monde ouvert. Donc la carte est assez grande, moins grande que Shadow of Chernobyl. Mais quand même, voilà, c'est quand même assez grand. Il y a de quoi explorer. Vous avez rencontré plein de PNJ. Hein, le jeu est un RPG. C'est un jeu en vue subjective, je ne sais plus si je l'ai dit. Qui vous donneront des missions et puis qui pourront vous rapporter de l'argent pour acheter du matériel, etc. Et puis, bah, vous, votre mission, c'est d'aller voir ces 5 hélicoptères qui ne sont pas tous accessibles tout de suite. Dans les missions aussi, vous avez le choix parfois de... Vous pouvez avoir une mission donnée par quelqu'un et puis vous donner l'info à une autre personne que l'autre type il vous a demandé d'aller faire ça et puis l'autre ça ne lui plaît pas. Donc vous avez le choix après de trahir ou pas, de faire la mission telle que le premier type vous l'a demandé ou de le trahir pour faire la mission comme le deuxième type. Lui vous a dit « Ah ben non, moi ça ne marche pas que tu fasses ça, donc fais plutôt comme ça.
Ouais, » comme le mec qui te demande le coffre et tu fais « Ouais, ouais. » Ou alors tu récupères le coffre et après tu vas voir l'armurier pour qu'il t'ouvre le coffre.
C'est
et
ça,
tu
voilà.
Tu récupères tout.
Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un jeu. Si Shadow of Chernobyl, il fallait une bonne cinquantaine d'heures pour le faire. Non, assez vite. Hein. Moi, je sais que ça, j'ai mis plus parce que je traîne et j'aime bien me balader. Ouais. Mais voilà, celui-ci, il est annoncé à une trentaine d'heures.
Non. Oui, j'aurais même mis moins en fait quand même.
Ouais, un peu moins. Je dis voilà, 30 heures si tu te balades quoi.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille celui-ci par exemple, si vous n'avez pas envie de vous refaire tous les autres et vous avez juste envie de vous replonger dans Stalker avant le 2 qui sort, qui lui s'annonce quand même assez grand. Hein. Il y a une carte de 60 km² explorable et une bonne centaine d'heures de jeu. Donc ça va pas déconner. Donc voilà, Stalker 2 donc, qui sort le 20 novembre. Call of Ripiat, c'est un super jeu donc, pour patienter. Toute la série des Stalkers sont en ce moment en solde sur Steam parce qu'ils font des soldes en attendant que le 2 sorte. Donc vous pouvez le trouver à 5€, voire peut-être moins sur des revendeurs de clés, hein, je ne sais pas. Mais voilà, sur Steam, vous pouvez le trouver à 5€. Et c'est quoi ? Il est sorti sur Switch.
Oui, chez Microsoft aussi, Microsoft l'a sorti sur leur console.
Ah ouais.
Et sur Switch carrément.
Sur Switch, il est sorti, sur le eShop seulement.
Ah ouais.
Pour 39€, il y a les 3 jeux. Et j'ai regardé les vidéos et ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal, franchement, il a l'air d'être plutôt bien optimisé.
Tu veux dire que le jeu de 2007, il arrive à tourner sur du hardware de 2017?
Ouais.
Waouh, impressionnant.
Hey. Bah ouais,
impressionnant quand même.
C'est pas gagné pour tous les jeux. Il y en a qui regarde GTA Trilogie, ça tourne pas très bien.
Non, non,
et c'est plus vieux.
Et puis, va dire ça à ceux qui ont acheté Skyrim sur Switch aussi.
Aussi, ouais, tout à fait. Donc voilà, et puis voilà, comme disait Tony tout à l'heure, sur PC, il y a plein de mods qui existent. Donc je vous invite à fouiller sur le net les sites de mods pour modder le jeu et le rendre... Ouais, y a des mods impressionnants hein, qui sont vraiment super.
Eh bien, écoute... Merci beaucoup Charles
bah de rien.
Pour cette chronique et probablement qu'on vous reparlera donc de ce Stalker 2.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais.
Quand certains d'entre vous l'auront fini. Moi, je l'ai mis aussi dans ma petite liste de souhaits sur Steam, un de ces quatre, quand il sera un peu moins cher. C'est vrai que ça peut être chouette de découvrir cette série. Philippe, 20h44, Radio Campus Tour, pause musicale, qu'est-ce qu'on s'écoute ?
Allez, pause musicale, petit jeu qui n'existe plus depuis plus de 10 ans, petit jeu de course, Ridge Racer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et un des thèmes les plus connus s'appelle One More Win.
De retour sur Radio Campus Tour après cette pause musicale 20h47. Vous êtes à l'écoute de Press Start, votre émission autour du jeu vidéo sur Radio Campus Tour. Tony tenait à nous faire un petit, comment dire,
un teaser.
Un petit teaser, effectivement.
Il va lancer sa propre plateforme musicale, bravo.
Magnifique. Non, plutôt, Tony a un petit jeu pour vous. On peut même dire ça.
Ouais, on peut faire comme ça. En fait, je voulais parler d'un jeu. Là, je vais manquer un peu de temps, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je le ferai peut-être dans 2 semaines plutôt. Et en fait, je me suis amusé à mettre des images du jeu sur notre petit Messenger. Et
conversation
aucun de
travail.
Mes... Conversation professionnelle.
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 S'il vous plaît, faites-nous confiance sur parole. N'allez pas vérifier. et en fait, j'ai vu des images. Et notamment, il y a une image où on voit un stade de Rocket League.
Oui.
Mais ce n'est pas Rocket League. Et du coup, Julien proposait, lorsqu'on était en train d'écouter la musique, de mettre ces images et d'essayer de voir si vous, les auditeurs, pouvez trouver le jeu. Voilà. Alors, je dis vous, mais il y a une personne qui écoute, je ne dirai pas son nom.
Que tu connais bien.
Que je connais plutôt bien. et qui, elle, sait, et elle n'a pas le droit de répondre, du coup, parce qu'elle était là.
Évidemment. Et donc, si jamais vous voulez voir ces images, rendez-vous sur le site internet radiocampustour.com. Dans les, dans les prochains jours, vous aurez le podcast de cette émission Press Start. Et donc, dans le podcast, on mettra ces images.
Et sur le Instagram, puisque tu as l'Instagram. Non.
Et on peut les mettre sur le Instagram de Radio Campus Tour, Radio Campus Tour sur Instagram. Top. Je crois que c'est RCT995FM, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous tapez Radio Campus Tour, vous le trouverez. Et on vous mettra, je pense, soit en publication, soit en story, les petites images.
Et si vous trouvez.
Charles, il vous paye une console. La PS5 Pro. Édition 30 ans.
On vous dit pas laquelle ni quelle taille elle fera.
Voilà, ouais. Je voudrais pas que je l'achète.
Une photo de là. Voilà donc pour ce petit teasing. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. L'occasion de vous dire que nos podcasts sont disponibles sur le site internet pour réécouter nos émissions. Et on passe maintenant au quiz.
Allez.
23-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
Et je pense qu'on peut dire bonjour à notre cher ami Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonsoir.
On avait promis, quiz. 50 minutes dans l'émission, on avait promis de dire bonjour à Pierre. Donc bonjour
à 20h50, ça va, ça va, 20h50. Ça va quand même. Nous voici donc pour ce quiz. Si vous nous avez écouté il y a 15 jours, comme c'est le cas par exemple, de Charles. Vous vous souvenez que je vous avais parlé dans mes actualités de ce livre que je tiens entre les mains, encore une fois, radiophonique.
ASMR.
Qui est donc un livre qui s'appelle donc La plus grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo.
En fait, c'est faux, c'est juste Botin.
Je tape sur la table.
84, en
fait. Et donc, édité par les éditions Omake Books et Florent Gorge qui écrivent, on vous l'avait expliqué il y a 15 jours, de nombreux livres autour des jeux vidéo et des ouvrages de référence, notamment autour de l'univers de Nintendo. Et donc, dans le cadre d'un crowdfunding pour le projet Odyssey, donc du plus grand musée, en tout cas du musée du jeu vidéo en France, ce livre a été fait, donc un peu plus de 2000 consoles de répertoriées, donc le plus gros guide qui a été créé jusqu'à présent en français, même dans le monde. Et donc, on s'était dit que ça pouvait être chouette de se servir de ce guide pour faire un quiz. C'est donc chose faite. J'en profite d'ailleurs, j'ai vu des stories de Florent Gorge qui était à la PGW il y a quelques jours. Et donc, j'ai vu que en fait, le livre était sorti aussi au grand public. Il est maintenant disponible. Il s'appelle Console Museum, la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo. C'est le même, si ce n'est que ce n'est pas la même couverture. Vendu à 35 euros sur le site d'Omake Books, si vous voulez vous le procurer. Donc, disponible à tous. On avait promis de donner l'information. Donc, vous l'avez si certains sont intéressés. Ça peut faire un joli cadeau de Noël. Et évidemment, on ne touche pas un centime pour tous ces achats.
Non, c'est vrai.
C'est pas une publicité, c'est juste un ouvrage de qualité qu'on vous suggère. Je voulais d'abord vous faire un quiz avec 4 chapitres et puis des questions et vous choisissez chacun un chapitre. Et en fait, le livre est tellement complet qu'en fait, j'ai à peine pris 10% du chapitre 1 et j'ai déjà un quiz complet.
Jusqu'à au moins 2027 ou 2028.
Ouais. C'est ça. Non, mais là, il y a du contenu pour au moins 14 quiz. Voilà. Donc, c'est facile, on calculera ensemble. Ce que je vous propose, j'ai un petit peu déroulé mes questions dans le sens de ce que j'ai trouvé dans le livre. À la fin des questions, du coup, je vais vous lire quelques petites explications. Vous aurez une question individuelle chacun. Et il y aura 4 questions collectives Selon ça, on marquera des points. Et puis à la fin, j'ai une petite question pour vous départager si jamais on a des égalités. Voilà, j'espère que tout
et
est clair pour
8
vous.
8 minutes.
Et j'ai oui, oh, ça va. Tout va bien se passer.
Oui.
Je commence par la première question. Qui va être mon joueur 1 ?
Bah, Charles.
Bah oui, c'est comme
bah, Charles,
la place sur le
podium.
Charles
sera le joueur 1 et après on fera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que la question pour le joueur 2 est difficile, donc ce sera pour Tony.
Ouais,
voilà, Charles, tu seras donc mon joueur 1. C'est parti pour la première question. Celle-ci, elle est facile, Charles. Elle est à ta portée.
Très bien. Merde.
Elle est à ta portée, Charles. Comment se nomme la première console de l'histoire de jeux vidéo ? La toute première console, comment est-ce qu'elle s'appelait ?
La toute première ?
Ouais, t'avais 3 ans quand elle est sortie.
T'avais peut-être, oui. Je peux dire, c'est pas une question... Attends, je vérifie. Non, c'est pas une question, elle est sortie en 72, cette console.
En 72
Oh, t'avais 17 ans, en fait.
En 72, la première console...
Est-ce que tu as une idée, Charles ? Si t'as pas d'idée, c'est pas grave, hein, ça.
Ouais, ouais.
C'est pas grave, tu peux rester un loser.
C'est pas grave.
Je dis les mots que Julien ne dit pas.
Hein. Bah, non, mais celle avec Pong dessus.
Bah, effectivement, ça commençait avec Pong, et en partie Pong, ouais.
Et c'était une Atari ou Amstrad
Non.
Mais me regarde pas, je te donnerai pas la réponse.
Non, je sais, ouais, je sais. J'essaie de lire dans tes yeux.
C'était
tu
pas
vois,
une Atari.
Non, non, non. C'était pas la Vectrex non plus.
Non. Est-ce que tu...
Ouais, non, je sais plus.
Alors, cette première console s'appelait...
J'aurais dit la Magnavox.
Et non, elle s'appelait, comme ce projet de musée, la Odyssée.
Ah oui.
La Odyssée, la toute première console de jeux vidéo, donc sortie en 1972 par Magnavox. Voilà.
Ah oui.
Tu vois, comme pas quoi, mal. J'étais vraiment
je connais
à côté,
le fabricant.
Hein. J'étais
c'est
sur la ligne.
Pas mal.
Et donc, voilà, c'est ce qui a marqué là, en gros, que c'était que la seule chose qui était possible avec cette console, c'était de déplacer plusieurs flux de lumière à l'écran. En gros, c'était une ligne et 3 amas carrés de pixels. Voilà, c'était effectivement hyper simple, mais c'était révolutionnaire pour l'époque parce que c'était tout simplement la première. Et j'enchaîne avec toi, Tony, pour la question évidemment plus difficile. Parce que, évidemment, cette console, comme toutes les consoles, on l'a branchée à la télé pour qu'elle fonctionne, mais il fallait faire d'autres trucs pour qu'elle marche et pour pouvoir jouer au jeu. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre ?
Il fallait mettre un calque sur la télé.
Il fallait mettre un calque sur la télé. Très bonne réponse, Tony.
Très
bravo.
Bonne réponse, wow. Ouais.
Et il y avait même un autre petit truc qu'il fallait faire. Mais
sur
si
sur
tu ne l'as pas, c'est pas grave. Je t'accorde le point quand même.
Attends, il fallait faire un truc en plus.
Ouais, il y avait un truc en plus. Tu branchais la télé, tu mettais ton calque.
Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas de AV, donc il fallait aller sur la bonne chaîne.
Non, c'est pas ça, même si ça devait peut-être en faire partie. C'est qu'en fait, il y avait des sortes de cartouches. C'était pas exactement des cartouches, mais en fait, il y avait 6 cartouches qui étaient vendues avec. Et donc, ça contenait pas de programme, mais ça servait en fait à connecter différemment les circuits de la machine pour qu'elle sache où envoyer le flux de lumière à l'écran. Et effectivement, comme tu l'as dit, en fait, il y avait ces calques transparents qu'on appelait en anglais des overlays, qu'on venait en fait tout simplement coller sur l'écran. Et qui permet en fait, de changer le décor en fonction des cartouches.
Mmh. Ça, j'aurais trouvé, c'est con.
Ah, pas de bol, il ne fallait pas être le joueur numéro 1, perdu. Et maintenant, je vous propose une question où chacun peut marquer des points. C'est la première question collective. Tony marque donc son premier point. La question sera, à combien d'exemplaires a été vendue cette console Odyssée ? Pierre, tu seras le premier à donner ton estimation, puis ensuite, dans ce sens-là, vous donnerez chacun votre estimation et le plus proche l'emportera. À combien d'exemplaires a été vendue cette première console qui donc
a été un succès commercial.
A été un relatif succès. Elle ne s'est pas vendue à 500 ou 5000 exemplaires. C'était quand même un succès. Pour autant, c'était la première console de jeux vidéo. Donc, ce n'était pas l'exposition qu'on a aujourd'hui sur une console.
Mmh. Alors, Pierre, pour t'aider, puisque tu es nouveau, je peux te donner un indice. Elle est sortie entre 10 000 et 10 milliards d'exemplaires.
Ah oui, ça fait une fourchette.
Je peux même te dire entre 10 000 et 10 millions. Parce que je suis sympa.
Elle coûtait combien cette
console ? Non, mais comme ça, à la louche, pour une première console.
Elle coûtait 99,95$.
Ah ouais, j'allais pas aller taper dans les millions ou quoi que ce soit, mais je dirais peut-être. J'aurais dit à la louche un truc genre 50 000.
Mais ok, 50 000.
C'est beaucoup plus.
Philippe, combien tu nous dirais ?
72, 10 000.
Ok, 10 000. Charles ?
Oh, ça peut avoir marché mieux que ça quand même.
Vas-y, Charles.
C'est sorti aux États-Unis ?
Ouais, aux États-Unis, sorti en Europe aussi.
Allez, je dirais 200 000.
Ok, 200 000. C'est aussi sorti au Japon, mais ça a moins bien marché.
322 000.
Eh bien, écoutez, je suis désolé, mais c'est Tony qui l'emporte avec
300... Ouais, parce que depuis tout à l'heure, Tony, il est en train de regarder sur ton ordinateur.
Il a une tablette et un téléphone sous les yeux.
Non, non, je le vérifie. 350 000 exemplaires. Bravo, Tony, t'étais vraiment, vraiment pas loin. Et nouvelle...
quoi, les pas losers,
et nouvelle question collective, tu seras le premier à répondre, Philippe. Ouais. La console est donc sortie en 72 aux États-Unis.
Sans doute.
En quelle année est-elle sortie en France?
Alors, sachant que l'Amérique, c'est loin, et déjà, il faut presque 30 ans pour certaines choses depuis l'Angleterre.
Tu te doutes que si je te pose la question, la réponse n'est pas 72.
72, évidemment.
Ce n'est pas 2004 non plus, je te rassure. Ben,
ça pourrait être une question piège, après.
Et pourtant, la question... 76.
Ok, 76 pour Philippe, donc 4 années après.
Tant que ça traverse les États-Unis et l'Atlantique, c'est long.
Ok. Alors, toi, qu'est-ce que tu nous dirais, mon cher Charles? On a 76 pour Philippe.
Et 75.
75 pour Charles. Vous avez le droit de dire pareil que le copain. Hein.
1958 pour Tony.
Mince,
perdu. Alors, bon, même la 77.
77.
Sachant que c'est un nouveau produit aussi, vu que c'est la première console, ouais. Du coup, il n'y en a pas avant. Moi, j'aurais même dit plus, mais du coup, 79, je veux dire.
Ok, eh bien, c'est Charles qui remporte le point. Ta-ta-ta-ta-da. 75, alors c'est une estimation, il faut savoir que c'est une estimation, parce qu'en fait, il y a un article vachement sympa dans le livre, en fait, l'auteur, en fait, vraiment enquêté là-dessus, dans le sens où y a certains disent que la console est sortie entre 73 et 74 en France, mais en fait, il a retrouvé un reportage de 1974 d'un journaliste qui le teste à une foire à Bordeaux, et qui est le premier à le tester en France. Et donc, en fait, apparemment, selon ce qu'on a, les documents qu'on a, elle ne serait pas sortie avant mars 75 en France. Donc, quand même, 3 ans après. Alors, évidemment, il y en a sans doute qui ont été importés de manière plus ou moins légale. Mais à partir de mars 75, ça a vraiment été...
Et honnêtement, si on pouvait avoir le nom du journaliste qui a été le premier mec en France à jouer aux jeux vidéo, on pourrait faire un trophée ou une statue à sa gloire.
C'est vrai que c'est un peu le premier à avoir joué aux jeux vidéo.
Sans le savoir, il a inventé tout un...
Sur une foire à Bordeaux.
Sur une foire à Bordeaux, c'est encore plus incroyable.
Je vous propose maintenant de passer à la question suivante. On change de thème, on laisse derrière nous la console Odyssey. Je me tourne vers toi, mon cher Pierre. D'ailleurs, j'ai marqué 2 fois Tony sur ma liste.
Oui,
Pierre, et d'ailleurs,
comme par hasard.
Je n'ai pas marqué les points. Tony a donc 2 points et Charles 1 point.
Ouais. Voilà. Non, mais c'est Tony 1 et Tony 2, d'accord.
Tout à l'heure, on en parlait, d'ailleurs, ça tombe bien. Atari, qui a aussi été un des premiers à créer des consoles de jeux vidéo, qui en tout cas a vite suivi. Quelle était la première console de salon d'Atari?
En plus, Atari, c'est hyper connu. Alors, la première...
Je te vois, Charles, essayer de regarder.
Hein. Ouais, non, cherche la Odyssée sur eBay.
C'est compliqué. Non, j'avoue que en termes de nom, ça me revient pas.
Tu peux tenter un truc si tu veux. Si t'as pas, il n'y a pas de problème, évidemment.
Ouais, je saurais pas te dire là comme ça.
Est-ce que les autres auraient proposé quelque chose?
Atari 2600.
Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais.
Eh bien, non. Parce qu'en fait, avant la Atari 2600, ils ont sorti la série Home Pong. Ils ont fait tout un tas de consoles, une petite dizaine de consoles quand même. Oui, justement, donc Atari qui ont commencé sur des bornes d'arcade avec Pong et qui en fait ont décliné avant cette Atari 2600 des consoles Pong. Et donc, c'est ma nouvelle question commune et ce sera à toi, Charles, le premier à répondre. En quelle année est-elle sortie cette console avant la Atari 2600? Je vous donne pas la date parce que sinon c'est trop facile. En quelle année est sortie cette console? Je vous le dis, c'est après évidemment la Odyssée qui était sortie en 72. En quelle année est-ce que Atari se sont dit allez, on va nous aussi se lancer dans ce secteur-là?
Eh ben, 76.
Ok, 76, donc 4 ans après.
74.
74, donc 2 ans après son Tony.
J'aurais voulu dire 75.
75 pour Pierre entre les deux. Philippe, 73. Est-ce que tu innoves? T'as dit combien, pardon?
73.
73, donc l'année d'après pour toi. Ouais. Eh bien, Pierre, tu marques ton premier point. C'était en 1975, et on peut même dire que c'était à Noël 75. Et donc, en fait, c'est une console qui, dans un sens, a plutôt bien marché, parce qu'en fait, c'était une simplification de la console Odyssey qui commençait à être un peu à bout de souffle, et qui apportait du coup des améliorations avec de la couleur, des bruitages et l'affichage des scores, notamment. Et rapidement, ils ont eu plus d'une douzaine de nouveaux modèles qui sont sortis entre en fait 1976 et 1977.
Les bruitages de la console en 74, c'est-à-dire en gros, t'avais l'impression que ta télé était en train d'exploser.
Ah, ça devait être sans doute
ça devait être violent.
Quelque chose de sympa. Et je crois que la Atari 2600, si je dis pas de bêtises, elle est sortie plutôt autour en 77, quelque chose comme ça.
C'est un peu après.
78, enfin voilà, on était quelques années après. Et effectivement, quand on cherche sur Internet première console d'Atari, on tombe sur l'Atari 2600. Alors qu'en réalité, ils ont fait ces petites consoles Pong à la maison. On enchaîne, on va aller très vite. Ouais. Je vous propose une question vocabulaire vidéoludique, évidemment, parce que c'est marrant. À qui est destinée cette question? Au quatrième joueur qui n'a pas joué? C'est toi, Philippe.
Ouais.
Avant la démocratisation du terme jeu vidéo, aujourd'hui on parle de jeu vidéo, c'est facile. Comment est-ce que le grand public et les pouvoirs publics appelaient le jeu vidéo? Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé comme nom pour dire jeu vidéo?
Alors, je vous rappelle qu'un politicien qui est devenu président avait appelé une souris un mulot. On part de loin.
Ah, on a des choses sympas. Alors, est-ce que tu as une idée? Tu as le droit de faire 2-3 propositions, c'est
alors,
pas facile. Comment est-ce qu'ils auraient pu appeler ça? Au lieu de dire jeu vidéo, quels étaient les termes à l'époque dans les années 70?
Je suis
70.
Sûr qu'il y a de vidéo ludique. Un truc vidéo ludique.
Suppos de Satan.
J'aurais tendance à dire jeu électronique vidéoludique.
Eh bien, écoute, on n'était pas si loin. Je peux t'accorder un petit demi-point. On entendait l'expression jeu électronique pour télévision, le fameux vidéo-jeu,
le vidéo-jeu,
ou encore le fameux jeu télé, ou encore le jeu électronique visualisé.
Celui-là, il est technique. Hein.
Pas mal.
Hein.
Et pour
donc,
les consoles.
D'ailleurs, dans 15 jours, l'émission s'appellera comme ça. On ne s'appellera plus Prestart.
Et bah justement, on peut prendre aussi un nom
bouton
de console.
Bouton démarrage.
On pourra s'appeler pourquoi pas ordinateur ludique, ordinateur de jeu télé ou encore appareil de péri-télévision. Voilà.
Magnifique.
Magnifique vocabulaire. Ouais. Écoute, Philippe, je t'accorde ce 0,5 points.
Ah bah, je le prends avec grand plaisir.
Et je vous propose, allez, on a quelques instants, une dernière question un petit peu pour vous départager, pour terminer, pour voir si Tony ou pas va remporter ce
lequel, Tony? Un ou deux? C'est toi, là, deux, apparemment.
Je voulais vous demander, messieurs, et ça va être un petit peu au plus rapide, si vous l'avez, sinon ce sera une petite page d'infos, quelle console du fabricant Coleco a concurrencé durant plusieurs années les consoles Atari sorties dans les années 70? Quel était le nom de cette console?
ColecoVision.
ColecoVision, oui.
Vous avez dit
ColecoVision.
Alors, c'est pas celle-là que j'ai.
Ah bah merde, c'est celle qu'on connaît.
Mince. Alors, on va se renseigner. Moi, j'en avais une autre. Est-ce qu'il y en avait une autre que vous connaissez ou pas? Et je cherche ma page pendant ce temps-là.
Coleco, vidéo ludique, télé, jeu télé, plus plus.
Alors,
Coleco, du coup, c'est japonais ou c'est, non, c'est américain?
C'est américain.
C'est américain.
Ouais, c'est tout à fait une marque américaine.
Les japonais, ça arrive tardivement sur le marché.
Eh bien, moi, j'avais ici la Telstar Video Game.
Telstar Video Game, magnifique. Non.
Et qui donc faisait partie de tout un tas de petites consoles qui, justement, ont concurrencé pendant un moment ces consoles Atari. C'est quoi vous m'avez donné comme réponse?
ColecoVision.
ColecoVision.
Ah ouais, là j'ai la Coleco Telstar. Et écoutez, sur cette ColecoVision, je regarderai, je me renseignerai pour la prochaine fois sur quelle est son année de sortie.
On aura un autre point peut-être dans 15 jours.
De toute façon, vous avez répondu tellement en même temps que si c'était bon, ça fait un point pour Tony, on peut accorder la victoire à Tony.
Juste pour ceux qui cherchent une console Magnavox Odyssey 3000, il y en a une sur eBay, elle est à $60, mais les frais de port, c'est $115. Donc voilà, donc vous pouvez jouer à une console qui ne vous sert à rien parce qu'il faut une vieille télé des années 50-60.
Oui, en plus, oui, pour pouvoir y jouer, effectivement, il faut le matériel adapté. Voilà donc pour ce petit quiz, pas forcément facile parce qu'on est évidemment parti sur du vieux matériel, mais voilà donc pour ce petit quiz un petit peu, pour remonter un petit peu dans le temps, dont je me suis inspiré donc de ce livre dont on a parlé, la plus grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo. Voilà pour cette émission Presse Start sur Radio Campus Tours qui touche désormais à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci à Pierre, merci à Philippe, merci à Charles, merci à Tony autour de cette table.
Et merci à Julien.
Merci à moi. Et on se retrouve évidemment dans 15 jours, lundi à 20h dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et n'hésitez pas à nous retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com.
Et n'oubliez pas le petit quiz sur la page pour trouver le Rocket League qui n'est pas Rocket League.
Exactement.
Allez, à bientôt, salut.
Ciao.
Salut.